Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR, la Radio Mondiale Adventiste, est présentée par Oscar Miani. Nous sommes donc ensemble pour les 30 prochaines minutes. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par internet également, sur www.awr.org, ou aussi grâce à votre téléphone au 01 80 14 44 77, si vous nous appelez depuis la France, ou bien au 00 33 1 80 14 44 77 si c'est en dehors de France, ou encore si vous nous écoutez depuis les États-Unis, c'est le 1 712 432 9978. Et il est important de signaler que ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Pour notre programme de ce dimanche, eh bien, nous vous proposons l'étude de la Bible de la semaine.
Que l'amour fraternel demeure. Hébreux 13 présente l'exhortation finale de l'apôtre, que l'amour fraternel demeure. Et il a affirmé tout au long de l'épître que nous faisons partie de la maison du grand prêtre roi, Jésus, que nous sommes ses frères et sœurs. L'auteur ne conçoit pas les auditeurs comme un groupe d'individus qui travaillent pour leur salut dans une relation en tête-à-tête avec Jésus, mais comme une famille ou maison sauvée tous ensemble. Paul a décrit l'œuvre de Jésus en notre faveur comme un amour fraternel. Il n'a pas eu honte de les appeler frères. Hébreux 2 au verset 11. Ainsi, les croyants devraient faire les uns pour les autres ce que Jésus a fait pour eux. Tout au long de l'épître, l'amour fraternel impliquait de s'encourager mutuellement pour que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Au chapitre 13, cet amour implique de nombreux éléments. L'hospitalité, Hébreux 13 verset 2, les visites et le soutien aux prisonniers et ceux qui sont maltraités, honorer le mariage, éviter la convoitise, se souvenir des dirigeants de la congrégation et leur obéir, et prier pour l'auteur lui-même. Le christianisme était un mouvement itinérant qui dépendait souvent de l'hospitalité des chrétiens, aussi bien que des non-chrétiens. L'ordre de ne pas oublier l'hospitalité ne renvoie probablement pas seulement au fait de ne pas penser à héberger quelqu'un, mais plutôt à ne pas négliger de manière délibérée. Paul ne pense pas à l'hospitalité uniquement pour les frères dans la foi. Il rappelle à ses lecteurs qu'en recevant des étrangers, certains ont, sans le savoir, accueilli des anges. Il pensait probablement à la visite des trois hommes à Abraham et Sarah. Offrir l'hospitalité implique de partager ses biens avec l'autre et souffrir avec les autres ce que Jésus a fait pour nous. L'amour fraternel envers ceux qui sont en prison impliquait non seulement que les croyants se souviennent des prisonniers dans leurs prières, mais aussi leur viennent en aide par un soutien matériel et affectif. Les prisonniers risquaient d'être délibérément négligés. Ceux qui assuraient un soutien matériel et affectif à ceux qui étaient condamnés par la société s'identifiaient à eux. En un sens, ils devenaient leurs partenaires et se rendaient vulnérables aux souffrances sociales. L'exhortation de Paul emploie des métaphores et un vocabulaire spécial pour encourager les lecteurs au sujet des prisonniers. D'abord, l'auteur évoque le soutien des lecteurs pour leurs frères incarcérés dans le passé. Ils étaient devenus des compagnons ou des partenaires pour ceux qui avaient été exposés aux insultes et aux détresses. Deuxièmement, le champ lexical de mauvais traitement fait écho à l'exemple de Moïse qui a choisi d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Enfin, Paul s'empare de l'idéal de l'amour fraternel. Il rappelle aux lecteurs qu'ils sont aussi dans le corps. Ils partagent la même condition humaine et devraient traiter les autres comme ils voudraient être traités s'ils étaient dans la même situation, c'est-à-dire en prison. Les croyants devraient ainsi assurer un soutien matériel et affectif aux prisonniers en leur montrant qu'ils n'étaient pas abandonnés. Paul met en garde le lecteur contre l'immoralité sexuelle et la cupidité parce qu'il s'agit de deux grandes menaces pour l'amour fraternel. En fait, les écrivains du Nouveau Testament et les moralistes antiques relevaient même un lien entre elles. L'apôtre Paul a honoré le mariage. Cela supposait, entre autres, de s'abstenir de rompre ses vœux de mariage et de divorcer de manière injustifiée. Voir Matthieu 19 au verset 19. L'exhortation à garder le lit conjugal exempt de souillure renvoie au fait d'éviter la profanation du mariage avec des relations sexuelles en mariage. L'expression « fornicateur » dans le Nouveau Testament renvoie à toute forme d'immoralité sexuelle. En outre, la société gréco-romaine était plutôt libre en matière d'éthique sexuelle. Il n'était pas rare d'avoir affaire à deux poids deux mesures. Les hommes avaient toute liberté dans les relations sexuelles tant qu'elles restaient discrètes. Mais les croyants ne doivent pas laisser les conventions sociales établir leurs propres normes éthiques. L'amour de l'argent était l'une des principales catégories de dérèglement dans le monde gréco-romain. En fait, dans une autre lettre, Paul renvoie à l'amour de l'argent comme étant la source de tous les maux. Pour se défendre contre ce vice, Paul encourage une certaine attitude dans plusieurs de ses épîtres. D'abord, on doit se contenter de ce que l'on a. De plus, les chrétiens doivent croire et accueillir la promesse de Dieu. « Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » Dieu a fait cette promesse à son peuple à plusieurs reprises, dans plusieurs endroits, et elle est valable pour nous aujourd'hui. Les croyants sont donc invités à répondre à la promesse de Dieu avec les mots de Psaume 118 au verset 6, qui dit « Le Seigneur est pour moi, je n'ai pas peur. » Que peuvent me faire les humains ? Cette référence au psaume 118 est appropriée car le psalmiste y exprimait sa confiance en Dieu malgré les souffrances qui lui faisaient subir les croyants. Hébreux 13, versets 7 à 17 présente une exhortation à respecter les dirigeants de l'assemblée et à leur obéir. Il commence par une invitation à se souvenir des dirigeants dans le passé qui leur ont parlé de la parole de Dieu. Il se termine par un appel à obéir les dirigeants dans le présent, les dirigeants du passés sont vraisemblablement ceux qui ont prêché en premier la parole et ont fondé l'assemblée. L'appel à se souvenir d'eux ne renvoie pas simplement à un exercice intellectuel de mémoire, ni à un hommage extérieur. Paul explique que l'on doit se souvenir d'eux en examinant l'issue de leur conduite et en imitant leur foi. Pour Paul, le grand acte de souvenir et de louange, c'est l'émulation. De cette manière, Paul a ajouté les dirigeants fondateurs de l'Assemblée à la liste des héros fidèles que les croyants devraient examiner attentivement. Cette liste inclut les héros de la foi d'Hébreux 11 et Jésus, l'exemple parfait de la foi, dans Hébreux 12. L'auteur note en outre que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il tranche nettement avec les faux enseignements qui changent avec le temps et dont les doctrines sont diverses et étrangères par ses enseignants. L'appel à se souvenir des dirigeants dans Hébreux 13 au verset 7 est réitéré dans le terme les plus énergiques à la fin de cette partie. Les croyants sont exhortés à obéir aux dirigeants parce qu'ils veillent sur leurs âmes. Les dirigeants sont décrits ici comme les pasteurs qui ont la responsabilité du bien-être spirituel de l'assemblée, leur troupeau, et qui devront rendre compte à Dieu pour leur état spirituel. Bien entendu, l'idée doit également s'appliquer à tous nos dirigeants d'église ainsi qu'à tous les niveaux de la dénomination aujourd'hui. Le contexte indique également que ces dirigeants sont des sous-bergers qui servent sous les ordres de Jésus. Le grand berger des brebis, la combinaison de soins et de fidélité de la part des dirigeants et l'obéissance et la confiance de la part des membres aura pour conséquence la joie. Cela peut vouloir dire que les dirigeants pourront servir l'Assemblée avec joie ou bien qu'ils rendront compte à Dieu des fidèles avec joie et pas avec tristesse. Le lien entre les faux enseignements et la nourriture évoqué dans Hébreux 13, verset 9, ne renvoie probablement pas à la distinction entre aliments purs et impurs. D'abord, Paul ne semble pas concerné dans l'Épître par la distinction entre aliments purs et impurs. Nous savons, d'après Acte 15, que l'Église chrétienne primitive affirmait à la fois que les croyants étaient sauvés par grâce et qu'ils devaient continuer à observer certaines règles sur l'alimentation. La distinction entre aliments purs et impurs et d'autres règles bibliques ne sont pas opposées à la grâce. En fait, Paul avance que la nouvelle alliance a mis la loi dans leur cœur. Ce que l'auteur dit clairement cependant, c'est que les sacrifices d'animaux et la médiation sacerdotale lévitique dans le sanctuaire ont été remplacés par le sacrifice supérieur et la médiation sacerdotale de Jésus. Deuxièmement, le contexte indique que Paul ne critique pas les auditeurs parce qu'ils s'abstiennent de certains aliments, mais parce qu'ils en prennent dans l'espoir d'obtenir la grâce d'une manière ou d'une autre. Il les met probablement en garde contre le fait de participer à ces repas rituels ou cultuels juifs qui étaient célébrés comme extension des sacrifices d'animaux dans le temple et qui étaient censés assurer des bienfaits spirituels ou la grâce. Mais la grâce ne s'obtient pas à travers ces repas. La grâce ne s'obtient que par le sacrifice et la médiation sacerdotale de Jésus-Christ. Les croyants ont un autel à la croix de Christ, d'où ils peuvent se nourrir. Dans Hébreux, la grâce s'obtient auprès du trône de Dieu. Cette grâce dont Christ est le médiateur est une ancre solide et ferme attachée au trône de Dieu lui-même. C'est cette grâce que nous recevons à travers le sacrifice de Christ, une grâce qui assure stabilité et assurance à nos cœurs. Quand le cœur a été ainsi affermi, il ne sera pas entraîné par de nouvelles doctrines et il n'ira pas non plus à la dérive, loin de Dieu. Le lieu qui se trouve hors de la porte était le plus impur de tout le camp. C'est là que les carcasses des animaux sacrifiés étaient brûlées. C'est également là que se trouvaient les lépreux exclus du camp et que les blasphémateurs et autres criminels étaient exécutés. Ces règles présupposaient que la présence de Dieu se trouvait au sein du camp. Tous ceux qui étaient impurs étaient chassés en dehors du camp parce que Dieu était incapable de voir quoi que ce soit d'impur ou d'indécent dans le camp. Jésus a souffert sur la croix en dehors de Jérusalem. Ce fait montre la honte qui est tombée sur lui. Il fut officiellement condamné comme ayant blasphémé et par conséquent, il fut répudié par Israël et exécuté hors de la muraille. Jésus fut chassé en dehors du camp car il était considéré comme quelqu'un de méprisable, de honteux. Mais Paul exhorte les croyants à suivre Jésus hors de la porte et à subir la honte qu'il a subie. Cela fait également partie du chemin suivi par Moïse qui choisit de porter l'humiliation du Christ au lieu des trésors de l'Égypte. Pourtant, paradoxalement, Hébreux indique que la présence de Dieu se trouve désormais en dehors du camp. Le fait de suivre Jésus en dehors du camp ne signifie pas seulement que l'on porte son humiliation ou la honte du Christ, mais aussi que l'on sort pour aller à lui. Tout comme les Israélites qui cherchaient l'Éternel sortaient de la tente de la rencontre qui était hors du camp dans le désert après que Moïse l'avait placé après la controverse du veau d'or. Ce récit indique que le rejet de Jésus par les incrédules impliquait aussi le rejet de Dieu, comme ce fut le cas avec l'apostasie du veau d'or. Ainsi, le chemin de souffrance et de honte est également le chemin de Dieu. Paul invite ses lecteurs à suivre Jésus, qui est le chef et le consommateur de leur foi, et les invite implicitement à considérer leurs souffrances actuelles comme une discipline momentanée qui produira le fruit paisible de la justice. Ils laissent derrière eux une cité ou un camp corrompu et vont à la recherche de la cité à venir dont l'architecte est Dieu. Après l'effusion du Saint-Esprit, les croyants se complaisaient dans la douceur de la communion des saints. Ils étaient compatissants, prévenants, désintéressés, désireux de se sacrifier pour la vérité. Ils révélaient dans leur vie quotidienne l'amour que le Christ leur avait recommandé de cultiver par des paroles et des actes généreux. Ils s'efforçaient de le faire naître dans d'autres cœurs. Mais bientôt, un changement graduel se produisit. Les chrétiens commencèrent à épier les défauts du prochain. Ils s'arrêtèrent sur des erreurs, se livrèrent à des critiques malveillantes et perdirent ainsi de vue le Sauveur et son amour. Ils devinrent plus stricts au sujet des cérémonies extérieures, plus pointilleux sur l'aspect théorique de la foi que sur sa mise en pratique. Dans leur zèle à condamner autrui, ils ne virent pas leurs propres erreurs. Ils oublièrent de pratiquer l'amour fraternel que le Christ leur avait recommandé avec tant d'insistance et ce, qui était plus triste encore, Ils n'avaient pas conscience de leurs égarements. Ils ne se rendaient pas compte que le bonheur et la joie disparaissaient de leur vie et qu'en bannissant de leur cœur la charité, ils allaient bientôt errer dans les ténèbres. Jean, qui constatait ce relâchement dans l'Église, insistait auprès des chrétiens pour leur montrer qu'ils avaient un besoin constant de pratiquer cet amour. Ces épîtres sont déminés par cette pensée. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, écrivait-il, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé à envoyer son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres.
Es Cristo, Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto
So Señor. Oh Padre, en esta hora queremos implorar a ti, oh Dios. Nos sentimos solos, nos sentimos tristes, Señor. Oh, a través de esta oración queremos invocar tu santo nombre. Queremos que tú, oh Dios, en nosotros sea la esperanza de gloria. Escúchanos, oh Dios. Invocamos a ti porque solo tú allá en el cielo estás. Oh, escúchanos. No es ni el sol, no es la luna, ni las estrellas. Eres tú el creador de todas las cosas. Eres tú la fuente de las aguas. Eres tú, oh Dios, el autor de la vida. A través de esta oración queremos abrir nuestro corazón a ti. Queremos que tú nos llenes, que podamos ser en ti nuevamente nuevas criaturas. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Gracias por amarnos tanto.
Tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sion, entonces me despediré feliz de ti.
Grace Notes, un rendez-vous hebdomadaire proposé par Bill Knott et Yves et Sylviane Santi pour la version française.
Les nouvelles dont nous avons besoin. L'élévation du niveau des océans inondera de nombreuses villes côtières d'ici 50 ans. L'inflation galope à des taux jamais vus depuis 1982. Des milliers d'enseignants expérimentés quittent leur profession. Le rythme des nouvelles quotidiennes est inquiétant, voire stressant. Des millions de personnes trouvent que le rythme de la détresse et de la catastrophe imminente est à la fois ensorcelant et épuisant. Nous n'osons pas manquer le gros titre, l'alerte mondiale des médias qui nous ont habitués à la menace et au danger permanent. Rester inquiet, anxieux, toujours sur le qui-vive. Quand le monde entier est en feu, comment osons-nous dormir en toute innocence? Pourtant, Jésus a dit :
Je vous laisse un cadeau, la paix de l'esprit et du cœur. Et la paix que je donne est un cadeau que le monde ne peut pas donner. Ne soyez donc ni troublés ni effrayés.
La nouvelle dont nous ne pouvons nous passer est bonne, incroyablement bonne. L'Évangile est la promesse que nos vies brisées et sabotées peuvent être réparées et guéries par l'amour indéfectible de Dieu.
J'ai balayé vos péchés comme un nuage, dit Dieu. J'ai dispersé vos offenses comme la brume du matin. Oh, reviens à moi, car j'ai payé le prix pour te libérer.
La grâce est la meilleure nouvelle qui soit, et pour toujours. Alors, restez-y.
Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. En dehors de France, vous rajoutez le 00 33, puis le 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, vous composez le 1 712 432 9978. Et pour nos coordonnées postales, eh bien, si vous voulez nous contacter, vous nous adressez vos demandes, vos courriers à la Voix de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100 77 193 d'Amarie-Lélis, CEDEX. Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous souhaite à présent une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.